RTL, il est midi et demi.
RTL midi, Céline Landreau.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition de RTL Midi. Nous sommes ensemble pour une demi-heure en ce samedi très chargé sur les routes de France. Migration estivale oblige entre les vacanciers, plus de 650 km de bouchons cumulés à l'heure actuelle et des trains souvent bondés. RTL vous accompagne même sur la route des vacances toute la journée. Dans l'actualité également, cette nouvelle marche pour Adama, le jeune homme mort lors de son interpellation dans le Val d'Oise le 19 juillet dernier. Il n'y aura pas de troisième autopsie, mais la famille réclame toujours la vérité. Les hommages au père Jacques Hamel, victime des terroristes, se succèdent aujourd'hui encore dans toute la France. En Pologne, les jeunes catholiques s'apprêtent à veiller avec le pape François pour la fin des JMJ. Et puis le Red Star, l'autre club de football parisien, retrouve la Ligue 2 cet après-midi. Il jouera au stade Jean Bouin dans la capitale. D'ici 13h, également ce document exceptionnel sur l'Aquarius Sinamir. Notre reporter a passé la semaine sur ce bateau qui navigue en Méditerranée avec un seul but, sauver un maximum de migrants. Enfin, votre rendez-vous du week-end cet été avec Isabelle Saporta. Et vous trouvez ça normal, toutes ces normes qui compliquent le quotidien des artisans. Avant ça, un point sur votre météo avec vous, Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour.
On est le 30 juillet, est-ce qu'on a un temps de 30 juillet, Valérie?
Oui, déjà au niveau des températures, nous avons des températures vraiment dans les normales de saison, au niveau du ciel aussi, parce que c'est pas très très net, ça a d'ailleurs tourné à l'orage assez nettement dans le sud. On a de gros orages actuellement en Auvergne, des pluies qui s'étendent jusqu'à la région Rhône-Alpes, qui glissent aussi vers la Méditerranée. Il pleut dans le Var notamment, et tous ces orages vont peu à peu s'intensifier et concerner essentiellement l'Auvergne et la région Rhône-Alpes cet après-midi et ce soir. Dans le sud-ouest, du grand soleil, du ciel bleu, tout va bien, et sur une large moitié nord, le panel gris-bleu habituel qu'on a depuis le début de la semaine, ça va durer encore aujourd'hui avec quelques petites pluies de rien du tout près de la Manche. Reste les températures, 23 degrés sur Nantes cet après-midi, 24 à Paris, 27 à Bordeaux, 31 à Marseille, 32 à Lyon, 33 à Montélimar.
33, ça fait du bien quand même. Oui. Merci Valérie. Journée noire donc sur les routes ce samedi, et les prévisions de Bison Futé étaient bonnes. La galère est bien là. Charles Dodon, plus de 650 km de bouchons cumulés en ce moment dans toute la France.
Effectivement, et même si on a de plus en plus de monde dans le sens des retours, ça reste quand même et toujours dans celui des départs que ça coince le plus, avec une traversée de la vallée du Rhône au ralenti. En direction de la Méditerranée, il faut environ 4h40 pour rallier Orange depuis le sud de Lyon. C'est 3 heures de plus que d'habitude. Près de la Méditerranée, on retrouve également des perturbations sur l'A9, ça freine en direction de l'Espagne à Béziers et au sud de Perpignan. Autre point noir, le secteur de Carcassonne, où on a eu un grave accident ce matin sur l'A61, patience surtout en direction de Narbonne. Via le centre du pays, des difficultés également à Montluçon, à Clermont-Ferrand, à Millau sur l'A75, ainsi qu'à hauteur de Limoges et de Brive sur l'A20. Enfin, direction la façade atlantique, beaucoup de monde là encore, ça freine sur l'A11 à Angers et à Nantes, même chose sur l'A10, dans la traversée de Tours, à Niort, à hauteur de Saintes et à Bordeaux. Et puis ça coince un petit peu au sud de Bordeaux, sur l'A63, notamment en direction d'Arcachon et du Pays Basque.
Merci Charles Dodon, vous le disiez, c'est compliqué dans le sud de la France. On va prendre justement la direction des autoroutes du sud avec vous, Peggy Lyodneau, bonjour.
Bonjour.
Peggy, vous êtes sur l'aire de Saint-Romer-d'Albon, dans la Drôme, sur l'autoroute A7, où pour ceux qui sont partis tôt ce matin, il est grand temps de se remplir l'estomac et de se dégourdir les jambes.
Oui, alors que ce soit debout devant la voiture ou encore attablé, l'heure du déjeuner a effectivement sonné pour le plus grand bonheur d'Amandine et de son père Carlos.
Ah bah là on mange, comme ça on se repose un peu, surtout mes parents comme ils conduisent. Et puis après on va repartir pour arriver à notre camping enfin. Alors au menu, c'est un grand buffet, plein de saucissons, un petit peu de chips.
Jambon, fromage, chips, bière, mais ça il faut pas le dire. Hein.
Un peu plus loin, le repas est plus léger pour cirer.
Carottes râpées, betteraves et puis taboulé. Diététique pour l'été. On mange bien.
Et après le déjeuner, certains, comme Aurélie, se détendent avec les animations.
Qu'est-ce que vous faites là ? À des exercices pour se détendre, pour reprendre la route après.
On va faire le saut ?
Ça marche.
On fait tous un saut.
On verra après.
Bim, bim, bim.
Détendu ou pas, il va bien falloir reprendre la route et affronter à nouveau les bouchons avant le grand plongeon.
Peggy Lyodneau sur l'autoroute A7 pour RTL. Alors, il y a ceux qui sont sur l'autoroute et puis les autres qui ont choisi le train pour prendre le large. Gauthier Delon-Bugard est allé rencontrer Gare de Lyon des vacanciers heureux de laisser le quotidien derrière eux.
On part à Presqu'île de Gien tous les ans depuis 8 ans maintenant. Farniente et puis le repos
pour un peu évacuer le travail, on va dire. On est dans un camping et on n'est pas maison parce qu'on est en maison toute l'année. C'est le dépaysement total.
Restaurant, les petites sorties, tranquille.
Je vois que vous êtes bien équipé, là. Qu'est-ce que vous avez mis dans les valises ?
Un petit peu de lecture, oui, mais toujours pour être sur la plage, tranquille. Là, je suis dans Marc Lévy, là, avec son livre « Elle et lui ».
Moi, souvent, en vacances, je vais au mini-club. On fait plein d'activités. Souvent, on va à la plage. On fait un peu de jeux de société aussi. Ça va me débarrasser de l'école, même si j'aime bien ça. J'ai pris aussi un livre pour souvent, quand je veux bronzer.
T'as pas pris de cahier de vacances là pour réviser un peu ?
Non, il a oublié à la maison.
J'ai envie de dire tant mieux.
Oui.
Témoignage recueilli par Gauthier Delon, Bugarre-Gare de Lyon pour RTL. Le trajet, la face sombre des vacances, redoutée parfois par les parents. Comment occuper les plus jeunes pendant le voyage ? Avec nous pour en parler, Stéphane Clerget, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre. Alors ces longues heures passées dans la voiture ou dans le train sont souvent synonymes de tensions entre parents et enfants. Comment faire pour qu'elles se passent au mieux ?
Oui, c'est vrai que c'est souvent synonyme de tension et c'est dommage. Je crois qu'il faut vraiment considérer que c'est la première journée de vacances et donc il faut se mettre en condition et commencer à proposer déjà des activités. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, que ce soit dans le train ou la voiture. Ce qui est dommage, c'est de se contenter de regarder des vidéos parce qu'ils en regardent suffisamment durant l'année. Et je pense qu'il faut vraiment profiter de partager ce moment-là avec les enfants, quitte à raconter des histoires ou un truc auquel on ne pense pas forcément. Ce sont toutes les histoires audio, des histoires sans images. Pourquoi ? Parce que l'enfant y est beaucoup plus attentif et en plus, ça développe effectivement son attention. Donc, écoutons des histoires. Dans la voiture, on peut aussi chanter ensemble. Hein. Dans le train, c'est plus gênant avec les voisins. Les tout-petits, vers 2 ans, ils ont besoin de se déplacer. C'est très dur pour eux de rester assis trop longtemps. Alors, dans la voiture, il y a les aires d'autoroute, on s'arrête toutes les 2 heures. Et dans le train, n'hésitons pas à aller dans le TGV, à monter ou à descendre l'escalier. Hein. Ça ne dérange pas grand monde. Les gens sont censés rester assis. Et ça fait beaucoup de bien aux enfants. Et puis, il y a tous ces petits jeux qu'on a bien connus plus jeunes, le ni oui ni non, on compte les voitures rouges qui passent.
Ça marche toujours, ça, justement, compter les voitures rouges ?
Avec les plus jeunes, oui, c'est bien efficace. Gauthier nous parlait des cahiers de vacances, pourquoi pas les commencer, voire s'en débarrasser pendant le trajet aussi. Ça peut être une idée.
Vous disiez, il faut éviter les films parce que les enfants en voient assez dans l'année. Pourtant, on a l'impression, quand on voyage en train notamment, que la tablette, c'est parfois un bon outil pour acheter la paix sociale hein, dans une voiture.
C'est vrai que c'est la recette miracle, mais à la fois, je trouve que c'est dommage de ne pas profiter de ce temps de trajet justement pour en faire une journée d'activité, j'allais dire pour faire finalement ce qu'on pourrait faire si par malheur, pendant les vacances, il se met à pleuvoir. Donc ça peut être aussi un entraînement pour les journées d'orage. Et puis dans la voiture, les tablettes, ça donne aussi un peu le mal de mer, enfin le mal des transports. Donc c'est à mon avis la solution ultime si vraiment on craque. Évidemment, vaut mieux ça que se disputer. Mais je trouve intéressant de proposer d'autres choses.
Alors gardons les vieilles recettes, continuons à compter les voitures rouges. Merci beaucoup Stéphane Clerget. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre. Merci pour ces conseils. Vous l'avez compris, donc les routes sont chargées, très chargées ce samedi. Alors certains préfèrent retarder le plus longtemps possible cette galère qui s'annonce en tout cas pour le retour et grappiller quelques heures de vacances supplémentaires. Philippe de Maria, c'est le cas de ces campeurs que vous avez rencontrés à Audenge sur le bassin d'Arcachon et ils ne se sont pas levés aux aurores ce matin, ils ont préféré en profiter encore un peu.
Exactement, car le lever à l'aube n'est pas forcément utile sur une journée noire. On va forcément tomber sur des bouchons. Et puis, il faut faire le ménage dans le mobilhome, s'assurer que l'on n'oublie rien. Nicolas va prendre la route dans quelques minutes avec son bébé Lolita. Il a une tactique pour éviter les ralentissements.
On va repartir dans le sud-est, s'arrêter vers Narbonne. Donc on espère, en fonction de mon GPS, je trouve assez pratique, qui me permettra éventuellement d'éviter les grosses affluences, quoi. Que ce soit plus facile à vivre, pour la petite surtout, c'est un petit bébé, donc on essaiera de prendre le réseau secondaire pour faire des petites pauses au moment opportun.
Mais l'heure du départ a tout de même sonné, les images des vacances bien remplies défilent au moment de rentrer dans la Marne pour Corinne.
Je passe trop vite, 2 semaines, ouais, c'était bien. Puis beau temps, très très chaud au début.
Vous avez eu dans les 40, non ?
41 au début, 41, 45, ouais. très diversifié comme région. Bassin d'Arcachon, la dune du Pilat, encore un autre paysage, et l'océan Atlantique. Gens sympathiques. Les dégustations de crustacés, de vin, tout. Les vacances, on reviendra.
Et vous reprenez quand, Corinne ?
Lundi. Oui, même on a profité.
Et dans moins de 3 heures, le mobilhome de Corinne sera déjà occupé lorsque notre juilletiste patientera dans les bouchons au sud de Paris. C'est la dure loi des chassés croisés.
Philippe de Maria, notre correspondant dans le sud-ouest.
RTL Midi, Céline Landreau.
Il n'y aura pas de troisième autopsie. La justice a rejeté hier la demande des proches d'Adama Traoré. Le jeune homme de 24 ans, mort lors de son interpellation par des gendarmes le 19 juillet dernier dans le Val-d'Oise. Un décès qui avait provoqué 2 nuits de heurts à Beaumont-sur-Oise et Persan. Les 2 premières autopsies déjà réalisées ont exclu des violences de la part des forces de l'ordre. Mais la cause du décès n'est toujours pas formellement établie, selon la famille qui appelle à un rassemblement cet après-midi devant la gare du Nord à Paris pour réclamer la vérité. Assa Traoré, la grande sœur d'Adama.
Depuis une semaine, tout le monde nous accompagne. On a un soutien mais énorme, national, international. On veut que cette marche, c'est une marche pour tout le monde. On ne veut plus de drames comme Adama Traoré. Il y en a eu avant. Il y a eu Adama, on ne veut plus. On veut que ce soit une marche pour la justice. On attend de ça qu'aujourd'hui, les politiques, la justice nous entendent et nous voient. Après, vous savez, qu'il y ait du monde ou qu'il n'y ait pas du monde, même si nous ne sommes que la famille à marcher pour Adama Traoré, je pense que c'est énorme déjà. Mais je pense qu'on aura des personnes qui viendront nous soutenir. Après, nous, ce n'est pas en nombre qu'on veut marcher. C'est vraiment en soutien, défendre les cause pour dire qu'on peut avoir justice en France, avoir confiance et pas avoir un non-lieu comme toutes les affaires passées derrière. Pour nous, ils ont assassiné notre frère, c'est un meurtre. Que justice soit faite, en tout cas pour notre frère, on veut que ce soit un symbole fort.
Assa, la grande sœur d'Adama Traoré, jointe pour RTL par Alice Moreno. 2 personnes ont été interpellées en Belgique, soupçonnées d'avoir projeté des attentats. Les 2 suspects, 2 frères, ont été appréhendés après les perquisitions dans les régions de Mons à l'ouest et de Liège à l'est du pays. En France, 2 gardes à vue se poursuivent après le meurtre du prêtre Jacques Hamel, mardi, assassiné par 2 terroristes dans une église de Saint-Étienne-du-Rouvray en Normandie. Le cousin d'un tueur et 1 réfugié sont toujours entendus. La 3e personne, un mineur de 16 ans, a été libéré, mais il n'en a pas fini avec la justice puisque des documents de propagande djihadiste ont été retrouvés dans son ordinateur et son téléphone portable. Dans le même temps, les hommages au père Jacques Hamel se poursuivent. Une veillée de prière aura lieu ce soir à Sainte-Thérèse, l'autre église de Saint-Étienne du Rouvray un peu plus tôt. Une cérémonie se déroulera à Bordeaux à 18h. Et puis tout à l'heure, à 15h, une marche de la fraternité s'élancera dans le centre de Lyon à l'appel du Conseil régional du culte musulman. Eux aussi vont marcher. Les jeunes chrétiens présents aux Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie, en Pologne, se préparent à une veillée de prière avec le pape François avant la clôture des JMJ demain. Plus 1 million de personnes sont attendues sur le campus de la Miséricorde, aménagé spécialement pour l'occasion. Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
Alors ce campus, il n'est pas dans Cracovie même, donc pour le rejoindre, les pèlerins se sont déjà mis en marche.
Il y a 15 km à parcourir pour rejoindre ce campus de la Miséricorde. Le début du trajet se fait en tram ou en train. Et ensuite, il reste au moins 5 km à faire à pied. Certains groupes sont partis dès 8h ce matin.
On va aller camper avec le pape. L'excitation est à son comble là.
C'est un pèlerinage. L'image du peuple en marche est très forte chez les catholiques.
Dans un moment où on a l'impression que tout le monde est déchiré, il y a plusieurs millions de personnes ici qui sont prêtes à marcher ensemble et à bien s'entendre.
Comme c'est le temps fort des JMJ, ça a du sens de marcher vers lui et d'attendre, de préparer son cœur à ce moment incroyable.
C'est un effort, ça permet quand même de se dépasser. J'ai besoin de marcher. Quand je marche, je peux réfléchir. On chante, on prie. C'est vraiment un moment où on est tous là pour partager et se connaître mieux.
8 amis de Lyon viennent de garer leur voiture dans une rue de Cracovie.
Les contraintes horaires, de stage, de travail, même financières, vous savez qu'on n'a pas pu faire une ou 2 semaines. Mais on a quand même souhaité venir pour les 72 heures avec le pape. On va marcher avec tout le monde. On dit souvent que la marche, c'est la spiritualité par les pieds.
Pendant qu'on marche, ça nous donne du temps pour méditer, pour prier, pour cogiter.
Je pense qu'aussi on partage notre souffrance, qu'on peut parfois souffrir, avoir des ampoules, des petits bobos, et on la partage.
Ce soir, après la veillée avec le pape, François, lui, rentrera à l'archevêché de Cracovie pour dormir. Les jeunes, eux, resteront sur place une nuit à la Belle Étoile avant la grande messe de clôture des JMJ qui aura lieu au même endroit demain matin.
Marie Guerrier, envoyée spéciale de RTL en Pologne pour suivre ces journées mondiales de la jeunesse. En football, la saison des transferts continue. Le Français Kevin Gamero quitte le FC Séville en Espagne pour rejoindre l'Atlético Madrid où il évoluera avec un autre attaquant tricolore, Antoine Griezmann. La Ligue 2 et le Red Star dans l'écrin de Jean Bouin. Le club parisien à l'étoile rouge va évoluer cette saison dans le stade de la capitale après avoir passé 1 an à Beauvais. Après une 5e place l'an dernier, le Red Star lance sa saison cet après-midi à 15h. Ce sera face à Auxerre. Une première donc à Jean Bouin qui réjouit sa directrice générale Pauline Gamer.
C'était très très important pour notre public, pour nos supporters de se rapprocher d'eux. Alors certes, c'est pas encore sur notre territoire, en Seine-Saint-Denis, à Beauhère, mais c'est déjà une grande satisfaction pour nous de pouvoir nous rapprocher de nos supporters et de pouvoir exercer cette saison au stade Jean Bouin. Notre souhait à moyen terme, c'est bien sûr de retrouver notre maison, notre chez-nous. Malgré tout, l'offre de football, elle est assez faible à Paris. Il y a un club en Ligue 1 et je crois qu'il y a une vraie volonté de voir du vrai football. Les abonnements, ils sont en vente à partir de 5€ le match. Cet après-midi, vous avez des places à 10€ et cette accessibilité-là, je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs parisiens qui auront envie de venir.
Pauline Gamer, la directrice générale du Red Star, jointe par Bertrand Latour pour RTL. La première journée de Ligue 2 qui a commencé dès hier soir avec la victoire de Sochaux 3-1 sur le terrain de Troyes, du Havre 1-0 sur le terrain d'Orléans. Autre victoire à l'extérieur, celle de Clermont 2-0 sur Valenciennes. Match nul 0-0 entre Niort et Lens, entre le Gazélec, Ajaccio et Brest. Pas de but non plus entre Bourg-en-Bresse et Strasbourg. Et entre Tours et Ajaccio, lundi, Amiens reçoit Lens. Dans quelques minutes, votre rendez-vous de l'été et vous trouvez ça normal avec Isabelle Saporta qui a débusqué l'absurdité des normes qui compliquent la vie de nos artisans. Et puis avant cela, RTL vous emmène sur l'Aquarius, un bateau affrété par SOS Méditerranée qui tente de secourir un maximum de migrants entre la Libye et l'Italie. Document exceptionnel, à tout de suite.
RTL Midi, Céline Landreau.
Vous écoutez RTL, il est 12h51 et c'est un document exceptionnel que nous vous proposons d'entendre à présent. Notre reporter Sinamir a passé toute la semaine à bord de l'Aquarius, ce bateau de sauvetage de l'association SOS Méditerranée qui a déjà secouru près de 4500 migrants en détresse, des hommes, des femmes, des enfants aussi qui prennent tous les risques pour traverser la Méditerranée entre la Libye et l'Italie pour rejoindre l'Europe, le trajet migratoire le plus meurtrier au monde. Sur les flots, pour sauver des vies, c'est un reportage RTL de Sinamir.
C'est une minuscule tache blanche de la taille d'un morceau de sucre qui dérive au milieu de la Méditerranée à l'arrivée des sauveteurs de l'Aquarius. À bord, plus de 130 femmes et hommes luttent au large des côtes libyennes sur ce pneumatique blanc où l'eau se mélange à l'essence après 6 heures de traversée.
Okay guys, we are here to help you and rescue and take it to Italy, okay?
Si vous parlez français, nous sommes là pour vous sauver.
Do you have women and children?
Est-ce que vous avez des femmes et des enfants à bord?
On a des femmes.
How many women and how many children?
Combien de femmes et combien d'enfants?
36. Guys, please don't fight.
Les gars, ne vous battez pas.
Guys, please. Guys, we will take everybody. Okay?
On va s'occuper de tout le monde, ok?
First, we gonna distribute life jacket for everybody.
D'abord, on va distribuer les gilets de sauvetage pour tout le monde. Ne vous précipitez pas.
Hello, welcome. You okay?
Par grappe de vin, certains au bord de l'épuisement, ces Érythréens, ces Soudanais, ces Nigériens ou ces Africains de l'Ouest sont débarqués un à un sur l'Aquarius. Sains et saufs, ils posent faiblement leurs pieds nus sur le pont avant de s'allonger. À l'arrivée des sauveteurs, l'eau commençait à monter, raconte Touri, un jeune Ivoirien d'une quinzaine d'années.
Vraiment, il faut que je vous assure, tout le monde avait peur. Et surtout les filles, elles pleuraient. Je les ai dit, quand c'est calmé, c'est Dieu qui est fort. Vraiment, ça me fait pleurer, ça me fait pleurer. J'ai mal de voir mes frères, voilà. Ça me fait très mal. Et oui, je remercie Dieu. Aujourd'hui, j'ai traversé la Méditerranée, la mer la plus dangereuse. Et ben voilà, j'ai réussi ma mission. Et voilà.
Where are you from? Une fois reposés à l'ombre du pont arrière, les récits sont sensiblement les mêmes. Tous, comme Touri, ont perdu un proche, quitté la guerre ou une terre sans espoir pour rejoindre l'Europe. Omar a fui le Nigeria et la terreur de Boko Haram avec sa femme pour travailler à Tripoli.
Il est bien.
En Libye, il n'y a pas la paix. Vous dormez toujours avec un œil ouvert. Vous travaillez le matin, vous mourrez le lendemain. Les Libyens ne me payaient pas. Ils me menaçaient et me disaient de retourner au travail. Ensuite, ils vous disent qu'ils veulent coucher avec votre femme, donc vous fuyez. Tout ce que vous avez, vous le laissez. L'Europe, elle vous accueille avec les deux mains, donc j'ai réussi. Vous m'avez accueilli avec deux mains, pas avec une, avec deux.
« C'est par ces chants traditionnels que ces migrants saluent leur nouveau héros. Une victoire aussi pour les marins de l'Aquarius, endeuillés la semaine dernière par le décès de 22 naufragés.
La crainte là, c'est qu'on a un deuxième, peut-être un troisième bateau nous sommes en train de chercher. On est à 2-3 heures de leur position, ce qui veut dire qu'on peut s'attendre à trouver un bateau en très mauvais état qui prend l'eau et on croise les doigts pour qu'ils soient tous vivants à bord, quoi.
L'embarcation repérée après 4 heures de navigation a été entre-temps assistée par un patrouilleur de l'US Navy en exercice en Méditerranée. Ce second sauvetage de la journée se fait dans le calme.
Si vous avez mal, il vous faut de nous dire.
Sur l'Aquarius, à quelques centaines de mètres de là, les femmes naufragées, principalement nigérianes et chrétiennes, choisissent l'intimité de la petite clinique installée sur le bateau par Médecins Sans Frontières pour entamer un gospel.
On danse et on chante, parce que ce n'est pas facile. Les gens meurent ici, dans le désert. Ils meurent aussi en Libye. Mais grâce à Dieu, on a réussi.
Une note d'espoir au milieu de cette Méditerranée si meurtrière. Juste une opportunité, disent les bénévoles de l'Aquarius.
Sinamir, l'envoyé spécial de RTL sur l'Aquarius. Un document à retrouver évidemment sur notre site rtl.fr.
Et vous trouvez ça normal ? Isabelle Saporta sur RTL.
Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Vous allez nous raconter aujourd'hui l'histoire d'Anaëlle, bergère du Mont-Saint-Michel.
Ah oui, une belle bergère, figure de proue du Salon de l'agriculture en 2013. C'est vrai que c'est toujours son élevage que l'Office du tourisme indique aux journalistes français ou étrangers. Il faut dire que voir cette jolie blonde, qui est une cavalière émérite, rabattre ses bêtes avec à cheval, c'est vraiment des images inoubliables.
Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, Anaëlle, elle est à bout, à deux doigts de jeter l'éponge.
Et c'est vrai qu'on n'arrête pas de lui en demander toujours plus. Et c'est absurde, la présentatrice japonaise qui l'a suivie pendant près d'un mois, lui a demandé d'ailleurs comment cela se faisait que la France ne fasse rien pour sauver des joyaux comme son élevage. Mais c'est pas que la France ne fasse rien pour les sauver, c'est qu'elle fait tout pour les enfoncer, et notamment elle a trouvé récemment une sombre histoire d'abreuvoir.
Mais alors c'est quoi cette histoire d'abreuvoir ?
Il y a une inspectrice qui a tiqué sur l'abreuvoir qu'Anaëlle avait mis pour ses bêtes. Elle lui a demandé si elle avait une autorisation en bonne et due forme pour son abreuvoir. Alors Anaëlle, elle a commencé à rigoler. En fait, il faut jamais rire, hein. c'est jamais drôle. C'était pas du tout une plaisanterie. L'inspectrice lui a expliqué qu'elle était en zone Natura 2000 et qu'on ne pouvait pas tout se permettre sur ces sites protégés.
Et vous pouvez nous réexpliquer ce que c'est Natura 2000 ?
Alors c'est une réglementation qui est censée protéger l'environnement. C'est très bien dans l'absolu, hein, vous savez, il faut qu'on protège l'environnement. Le problème, c'est la façon dont c'est appliqué, qui est souvent absurde, il faut dire les choses.
Anaëlle a donc dû décider de se mettre en conformité, c'est ça ?
Eh oui, alors pour se mettre en conformité sur un abreuvoir, il faut savoir qu'il faut remplir 8 pages de dossier, hein, c'est ça, voilà. Et en fait, il faut faire un plan. Il faut bien donner les cotes, l'emplacement exact, pour finalement s'entendre dire quand même que l'abreuvoir ne sera pas autorisé. Ça aurait pu s'arrêter là. Sauf qu'entre-temps, Anaëlle a subi un autre contrôle. L'un des collègues de l'inspectrice est venu et s'est étonné qu'il n'y ait pas d'abreuvoir pour les bêtes. Maltraitance animale ? Mais si !
Donc en fait, d'un côté, on lui dit pas d'abreuvoir à cause de Natura 2000, et de l'autre, pas d'abreuvoir, pas d'élevage.
Avouez qu'ils sont courageux, nos éleveurs, quand même. Hein. C'est pas facile d'être confronté à des choses aussi contradictoires.
Retrouvez Foutez-nous la paix d'Isabelle Saporta aux éditions Albin Michel.